Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mars 2017 et c'est Clotilde Say qui vous accompagne une nouvelle fois pour vous présenter les paractualités. Les titres aujourd'hui, un premier médicament pour toutes les formes de la sclérose en plaques, sécurité routière, signaux sonores exigés pour les handicapés visuels. Une première entrevue avec Martin Morin, président du Conseil canadien des aveugles de Longueuil, qui nous parlera un petit peu plus de cet organisme. On a en paractualité régionale à la ville de Québec, logement pour autistes, deux projets valent mieux qu'un, et puis deux enfants accablés par une terrible maladie rare. Et puis nous parlerons aujourd'hui avec Geneviève Labrec du regroupement pour la trisomie 21, dont elle est directrice au sujet de la semaine de la déficience intellectuelle. Par actualité nationale, 85 000 voyages en plus, ça je vous en reparlerai, on est beaucoup plus loin à ce moment-là. Alors, les paractualités, donc un premier médicament pour toutes les formes de la sclérose en plaques, écrit Adeline Mantic, en marge de la première présentation du congrès Espoir tenu par la Société canadienne de la sclérose en plaques, BSL, hier à Rimouski. Son directeur, Geoffrey Moll, s'est réjoui des avancées de la recherche, alors qu'un premier médicament pour toutes les formes de sclérose en plaques est en passe d'être approuvé au Canada et aux États-Unis. La grande avancée, c'est qu'il existe aujourd'hui un médicament englobant les deux types de sclérose en plaques. En ce moment, il est en voie d'approbation aux États-Unis et au Canada en traitement LARAMQ et la réponse devrait arriver dans l'année pour qu'il soit distribué, nous l'espérons, précise M. Moll, soulignant que ce nouveau médicament, l'ocrelizumab, permettra de ralentir la maladie. Il existe deux formes de sclérose, la forme poussée rémission et la forme progressive primaire, plus rare, qui touche environ 10% des personnes et dont on ne récupère jamais. Pour cette dernière, aucun médicament n'avait été trouvé, alors que pour la plus courante, un médicament existe depuis 20 ans. Et aujourd'hui, il en existe 13 médicaments différents, précise le directeur. Geoffrey Moll accueille en parallèle avec espoir les résultats d'une étude canadienne sur la greffe de moelle osseuse menée sur 13 ans sur 24 cas aigus de la sclérose en plaques et financée majoritairement par la Société canadienne de l'ASP, à laquelle la section du Bas-Saint-Laurent est affiliée. La société, au niveau pan-canadien, a versé près de 6 millions pour cela. Et sur les 24 participants, la recherche a comptabilisé un décès pour 23 personnes. On a observé un arrêt de la maladie et 15 ont récupéré certaines de leurs capacités. Alors la bonne nouvelle pour M. Moll, c'est que le diagnostic est fait de plus en plus tôt. Et pour M. Moll, toujours directeur de la Société canadienne de la sclérose en plaques BSL, la première présentation de ce congrès est un franc succès. Nous avons eu le soutien des compagnies pharmaceutiques Sanofi, Genzym et de Biogen, sans qui nous n'aurions pas pu tenir un tel événement. Notre organisme soutient financièrement la recherche, mais nous donnons aussi des services pour les personnes atteintes et leurs proches. Sécurité routière, signaux sonores exigés pour les handicapés visuels. Le directeur général du regroupement des personnes handicapées visuelles de la région 0312, René Binet, s'est présenté à la consultation publique menée par la SAAQ sous le thème de la sécurité routière. Ce dernier a insisté sur l'importance des signaux sonores dans les déplacements des personnes non-voyantes. Comme vous, vous avez la lumière verte, la lumière rouge ou le bonhomme piéton. Pourquoi on n'aurait pas l'équivalent, a-t-il demandé devant le panel de consultation. Ce serait vraiment important de faire en sorte de développer des contrôleurs de feu de circulation afin de les intégrer par défaut, a-t-il soutenu. Sa suggestion, installer un signal sonore dès la fabrication du feu de circulation et ce, pour chaque intersection. J'imagine que c'est une nouvelle ou en tout cas un avis qui a dû intéresser mon invité du jour par téléphone. Il s'agit de M. Martin Morin, qui est président du Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Bonjour M. Morin.
Bonjour.
Oui, hein, j'imagine que vous aussi, vous pensez qu'il est extrêmement important qu'on installe des signaux sonores à tous les feux de circulation, notamment à ceux qui seront mis en place.
Oui, évidemment.
Hein, évidemment. Hein. Monsieur Morin, j'aimerais que vous nous parliez du Conseil canadien des aveugles de Longueuil. J'aimerais que vous nous parliez de cet organisme-là et que vous nous disiez quelle est sa mission exactement.
Le Conseil canadien des aveugles de Longueuil a été fondé en 1959 par M. Roger Beausoleil. Il a pour mission de promouvoir une qualité de vie maximale pour les personnes ayant une déficience visuelle par l'éducation, le loisir et le soutien individuel et collectif.
OK, mais quand vous dites éducation, vous pensez à quoi?
L'éducation, ça peut être, admettons, par des séances d'information en ce qui a trait, admettons, au feu sonore, ce qui a trait, admettons, exemple, en quoi consiste, admettons, l'association des usagers du transport adapté. Donc, on donne l'information qui concerne les personnes non-voyantes sur divers sujets.
Et puis, donc, vous m'avez dit formation, il y a un volet aussi service et activité qui favorise aussi, j'imagine, l'autonomie et le développement de la personne.
Oui, le loisir est une partie principale de l'organisme. Là. On organise des activités mensuelles et hebdomadaires. Quand on dit mensuel, ça peut être, mettons, une sortie aux pommes, une sortie dans le temps des sucres.
Oui.
Là, deux semaines, on a organisé un tournoi de crib, aussi une journée amicale. Ça peut être avec un souper aussi au restaurant. Donc, ça, c'est nos activités mensuelles. Nos activités hebdomadaires, bien, on joue tous les semaines au quilles.
Ah, OK. Ben écoutez, c'est fantastique parce que ça brise un petit peu l'isolement, peut-être, hein, dans lequel se réfugieraient, entre guillemets, des gens qui vivent avec une déficience visuelle.
Oui.
Monsieur Morin, vous venez d'obtenir un financement du Club Lions, donc les Lions de Boucherville, notamment d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez obtenu des financements également ailleurs, mais qu'est-ce que ce financement va vous permettre?
Ce financement va nous permettre, de poursuivre notre mission, de deux aussi, évidemment, tout organisme communautaire a des divers frais, comme nous, on a surtout des frais de transport et de locaux, et aussi on a divers frais afférents, tels que, mettons, l'envoi de notre bulletin, bon, donc des frais postaux. Donc, ce financement va nous permettre vraiment de défrayer ces frais-là.
Et est-ce que c'est rare qu'on vous aide comme ça ou c'est assez régulier? Est-ce que vous avez d'autres partenaires financiers comme ça?
Oui, bien évidemment, on a la contribution financière de députés provinciaux,
okay.
De la ville de Longueuil, évidemment,
oui.
Et de divers partenaires là, où ce qu'on trouve des moyens de financement, là, évidemment.
Oui. Et j'imagine que vous en avez toujours besoin, comme tous les organismes. Hein?
Oui.
D'accord.
Ah, oui.
Si quelqu'un qui nous écoute veut vous aider, on passe par où? On passe par votre site Internet, j'imagine?
Oui, on peut passer par notre site Internet qui est le ccalongueuil.org.
D'accord.
Ou nous envoyer un courriel à info, en commercial, ccalongueuil.org.
Alors, avec ce bel argent-là que vous allez recueillir, vous allez pouvoir préparer d'autres événements, organiser d'autres événements. Quels sont les prochains à l'agenda?
Évidemment, il va y avoir notre sortie à la cabane à sucre, mais tout prochainement, évidemment, il y a notre quilloton qui aura lieu le samedi 11 mars 2017 au salon quai du Club 300, situé au 16-26 boulevard Taschereau à Longueuil.
D'accord.
C'est 20 $ par personne.
Oui.
Et il y a des frais additionnels de 2 $ pour la location des souliers.
D'accord. Donc, le quilloton, le 11 mars prochain, est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable ou est-ce que les gens peuvent se présenter directement?
Oui, bien, c'est sûr que c'est préférable de s'inscrire à l'avance. Puis nous, on leur assure au plaisir assuré.
D'accord. Oui, ben ça, j'imagine. Hein. Alors, donc, on peut s'inscrire en passant par le ccal.org, comme toujours. Hein. C'est bien ça?
C'est ça.
Et puis, en ce qui concerne ce Kyoton-là, c'est pas la première fois que vous allez le faire. Est-ce qu'il y a d'autres genres d'activités comme ça, ou là, en ce moment, ça va être juste ça et la cabane à sucre, qui sera plus tôt que d'habitude cette année?
La cabane à sucre va être le 8 avril.
Ah.
Évidemment, on a une activité mensuelle, comme je vous disais tantôt.
D'accord.
Évidemment, en mai, c'est notre Assemblée générale.
D'accord.
Donc, puis en juin, on n'a pas encore de défini encore
D'accord.
d'activité encore pour l'instant, mais c'est sûr qu'en juin, on a toujours aussi, de juin à août, notre pétanque estivale.
Bon, ben écoutez, profitez-en bien de tout cela. Bravo à votre organisme, monsieur Morin. Et puis, bonjour à tous les membres et à tous ces gens qui participent à toutes ces belles activités que vous leur organisez.
Nous vous remercions beaucoup.
Mais de rien, monsieur Morin. Bonne journée.
Bonne journée, madame.
Par actualité régionale, logement pour autistes, deux projets valent mieux qu'un, écrit Camille B. Vincent dans Le Soleil. La présidente conseil d'administration d'Autisme Québec, Marie-Josée Lapointe, applaudit l'initiative du promoteur Michel Dallaire visant à offrir des appartements avec service dans le Vieux-Québec sur le terrain qui est situé en face de la maison Mère Mallet. Elle-même à la tête d'un projet de logement pour autistes adultes, la présidente du conseil d'administration d'Autisme Québec, donc Mme Marie-Josée Lapointe, applaudit cette initiative. C'est un beau projet. Il a tout notre appui, mentionne-t-elle au Soleil. Madame Lapointe, qui œuvre à Québec depuis 30 ans pour la promotion et la défense des droits des personnes autistes et de leurs familles, elle poursuit dans la même veine à titre d'instigatrice d'un projet similaire qui va s'appeler l'Espace Vie TSA, assurant que les deux initiatives sont complémentaires, mais absolument pas concurrente. Les besoins sont tellement grands, dit-elle, il y a de la place pour plusieurs projets. Même avec les deux projets, ce n'est pas demain la veille que tous les besoins vont être comblés. Michel Dallaire projette de construire plus d'une centaine d'appartements avec service sur le terrain situé en face de la maison Mère Mallet pour des autistes adultes et des personnes lourdement atteintes d'un handicap physique ou intellectuel. Pour sa part, le projet Espace Vie TSA prévoit 8 places pour des autistes peu autonomes ayant de grands besoins de supervision et 8 places pour des autistes légers. Avec de telles initiatives, le financement public pourrait-il venir à manquer? J'ose espérer que non, répond Mme Lapointe. Admettant qu'il n'y a pas beaucoup de sous destinés à des projets comme cela, elle fonde beaucoup d'espoir sur le plan d'action gouvernemental sur l'autisme qui devrait être lancé au cours des prochaines semaines par la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie. Lucie Charlebois. Le réseau de la santé est conscient qu'il faut améliorer le continuum de soins offerts aux autistes, assure Mme Lapointe, et des projets comme le sien et comme celui proposé par Michel Dallaire ne peuvent que contribuer à démontrer l'ampleur des besoins dans le secteur, conclut-elle. Accablé par une maladie rare, un chercheur a trouvé la mutation qui a emporté le fils d'une famille de Québec et qui en condamne un deuxième. Mais ces deux derniers, ce sont les deux derniers fils de Mme Claudine Nadeau ont vécu cette maladie, des grandes douleurs, comme dit la maman. Ce couple de Québec vit un véritable cauchemar, écrit Nicolas Lachance, en se préparant au deuil de leur deuxième enfant aux prises avec cette maladie rare héréditaire qu'un chercheur vient d'identifier. Même s'il est trop tard pour sauver Louis, cette découverte redonne espoir aux parents. Il y a 12 ans naissait leur fils aîné Charles, un garçon en parfaite santé. 2 ans plus tard, le couple a mis au monde Philippe, un enfant qui pleurait tout le temps. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, expose Madame Nadeau. Il était très handicapé, il avait le moral intellectuel d'un bébé d'un mois. Claudine, Simon et Charles l'auront vu souffrir et mourir dans d'atroces douleurs, il avait 4 ans. Les médecins n'ont jamais pu trouver ce qui provoquait ces maux chez Philippe. Et puis Louis est venu au monde, mais comme Philippe, il pleurait. À l'âge de 3 mois, il a commencé à avoir de puissantes convulsions. Il avait la même maladie mystérieuse que son défunt frère. Encore une fois, aucun médecin ne savait quel mal l'affligeait. La vie a mis le chercheur Carl Ernst de l'Institut de Douglas à Montréal sur leur chemin. Il a réussi à décrypter l'ADN du clan et à trouver exactement le problème génétique. Il s'agit d'une mutation qui est très particulière, qui vient probablement des filles du roi au XVIe siècle, a affirmé Carl Ernst, qui cherche un traitement pour corriger certains troubles neurologiques. Il s'agit d'un problème héréditaire dont Claudine, Simon et Charles sont porteurs. On était comme consanguins de plusieurs générations, précise Claudine. On a fait notre arbre généalogique et on se recoupait sur une madame. Cette nouvelle enlève un poids énorme sur les épaules de la famille qui pourra ainsi protéger les futures progénitures. On est content d'enfin avoir trouvé. Si je tombais enceinte par accident, on pourrait voir si le bébé est malade, dit cette femme, pour voir si le bébé est malade et si je pourrais me faire avorter, illustre Madame Nadeau, mais c'est pour Charles aussi. Si un jour il veut des enfants, pour être certain d'avoir un enfant en santé, il pourra faire tester sa conjointe, dit-elle. Par actualité nationale, système de santé, un plan pour afin de faire face aux changements, des pistes de solutions, écrit Gilles Duval, afin de rendre le système de santé plus efficace, ont été suggérées par les intervenants à une consultation sur l'élaboration du plan pour les familles du Nouveau-Brunswick, mardi à Edmundston. Les participants présents sur invitation ont établi une liste de 10 priorités afin d'améliorer le système de santé néo-brunswickois. Des intervenants interrogés sur place par la Acadie Nouvelle se disent confiants quant aux changements à venir. Le plan pour les familles du Nouveau-Brunswick sera axé sur l'amélioration des soins primaires et des soins de courte durée. La promotion du mieux-être, le soutien aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou un handicap, la facilitation du vieillissement en santé et le soutien aux aînés, la progression de l'égalité des femmes ainsi que la réduction de la pauvreté. Mieux utiliser les ressources disponibles est l'une des recommandations qui sont ressorties des consultations mardi. Confiant en l'avenir, le président de la Fédération des citoyens aînés du Nouveau-Brunswick, Léonard Leblanc, soutient que le statu quo est inacceptable. La population comptera 50 000 aînés de plus dans 10 ans, a-t-il fait remarquer. Nous avons proposé des solutions aux problèmes du système de santé du Nouveau-Brunswick. C'est maintenant au gouvernement de réagir. Il doit commencer à mettre en place les récentes recommandations du Conseil sur le vieillissement, a dit M. Leblanc de Dieppe. Selon lui, des mesures pourraient être prises pour favoriser l'amélioration du système. Des ressources additionnelles pourraient être mises en place dans les communautés. Une infirmière praticienne ou un pharmacien peuvent parfois régler le problème d'un patient sans qu'il se rende voir un médecin à l'urgence, a continué M. Leblanc. On dirait que les régies, les hôpitaux, les foyers ou les services ne se parlent pas entre eux. Il faut éliminer ces barrières, car nous avons tous à gagner de connaître les bons coups qui ont été faits ici au Nouveau-Brunswick ou au Canada, pour les appliquer dans nos régions et travailler ensemble pour notre avenir commun. Nous devons aussi éliminer la duplication des services dans le système, a indiqué Mme McLellan, une citoyenne de Heartland. Et j'ai la joie, parce que c'est toujours une joie de pouvoir parler avec Geneviève Labrecque, qui est directrice du regroupement pour la trisomie 21. Bonjour, Mme Labrecque.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien. On est en semaine de relâche avec les enfants.
Ah! Alors, qu'est-ce que vous faites pendant la semaine de relâche?
Hey, on en a profité. On a été visiter Québec. C'est toujours un bel endroit. Puis
oui.
On s'amuse bien là-bas.
Bon. Et aujourd'hui, on voudrait évoquer avec vous la semaine de la déficience intellectuelle. D'accord?
Oui.
Juste avant, hein, en quelques mots, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, rappelez-nous la mission de votre organisme, le regroupement pour la trisomie 21, s'il vous plaît.
En fait, le regroupement pour la trisomie 21 est un organisme québécois à but non lucratif qui a pour mission de favoriser le plein développement des personnes qui ont une trisomie 21. On veut aussi promouvoir leur contribution au sein de la société et défendre leurs droits. Et tout ça, on fait ça en soutenant les familles, les proches aidants et les professionnels qui gravitent autour d'eux.
Alors, pourquoi est-ce... Bon, je veux dire, remarquez, la question est mal posée. C'est essentiel, hein, encore une fois, de souligner la semaine de la déficience intellectuelle. C'est vrai que se demander pourquoi, on connaît la réponse, mais on est encore et on a toujours besoin de le faire. Hein. C'est un petit peu comme la journée de la femme demain. Qu'en pensez-vous, Mme Labrecque?
Exactement. En fait, moi, très personnellement. Quand j'étais enfant, il y avait un enfant qui prenait notre autobus scolaire et on le trouvait bizarre. On ne savait pas trop ce qu'il y avait. Et avec les années, à un moment donné, j'ai cliqué quand j'avais une vingtaine d'années que c'était une personne qui avait une déficience intellectuelle, mais qu'on n'était pas informé, que personne ne nous expliquait c'était quoi. Et il a été beaucoup victime d'intimidation. Je me rappelle des événements qui se passaient dans l'autobus scolaire. Puis dans ma tête, à moi, je ne comprenais pas. Et mes parents ne pouvaient pas m'expliquer parce qu'ils n'avaient jamais vu la personne. Et pourtant, je regarde aujourd'hui, avec l'inclusion scolaire, les enfants côtoient des enfants qui sont différents, qui ont des handicaps, des déficiences. Ils sont beaucoup plus sensibilisés qu'à l'époque, une vingtaine d'années.
Ben écoutez, je suis contente de voir que vous êtes rassurante à ce propos, Geneviève Labrecque. Le 16 mars prochain, vous allez lancer une nouvelle brochure intitulée « 21 questions sur la trisomie 21 ».
En fait, je me veux rassurante, mais en même temps, je me dis que c'est les efforts de sensibilisation de l'organisme comme le regroupement pour la trisomie 21 ou l'Association du Québec pour l'intégration sociale qui font que les mentalités changent. Et le 16 mars, on veut profiter de la semaine de la déficience intellectuelle pour lancer notre brochure « Les 21 questions sur la trisomie 21 » parce que on a constaté depuis plusieurs années que quand on allait faire des conférences de sensibilisation pour la population générale ou même des médecins ou des enseignants, il y a plusieurs questions qui reviennent fréquemment. C'est quoi la trisomie 21? Est-ce que ces personnes-là vont me parler? Est-ce qu'ils peuvent faire les mêmes choses? Est-ce qu'ils ont une vie sexuelle, une vie affective? Donc, on a regroupé avec l'aide de collaborateurs les 21 questions qu'on trouvait les plus fréquentes. Ça a été tout un défi parce qu'on en avait des centaines au départ.
Bien sûr.
Et on a été obligé d'essayer de faire des regroupements. Et ça a fonctionné. On a réussi à en trouver 21. On a contacté des spécialistes qui gravitent autour du regroupement pour nous aider à écrire les réponses.
Oui.
Que ça soit le plus simple possible. C'est certain qu'on ne s'adresse pas aux parents qui ont un enfant qui a la trisomie 21 ni aux médecins qui sont spécialistes là-dedans, mais c'est vraiment pour la population en général, alors, pour essayer de démystifier la trisomie.
Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce questionnaire et comment y répondre?
En fait, on va pouvoir avoir des copies papier à nos bureaux, donc via notre site Internet, on va pouvoir vous les faire parvenir. Et on est en train de travailler pour avoir une version qui va être sur iTunes.
Okay.
Et une version aussi sur Google. Donc, on va pouvoir aller les télécharger puis les avoir dans nos appareils intelligents comme nos tablettes ou nos téléphones. Donc, on va pouvoir aller rapidement chercher la question qu'on veut avoir.
Et vous allez peut-être aussi utiliser les réseaux sociaux?
Oh oui.
Oh oui, dit-elle. Maintenant, c'est imparable.
Effectivement. Ouais. Et en plus, pour cette brochure-là, nous, on s'est associé avec Fabien Toulmé, qui est un BDiste français, qui a fait une belle bande dessinée il y a quelques années qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais », dans laquelle il parle et qui décrit en image de l'annonce de diagnostic qu'il a reçu de sa petite fille quand elle est née avec la trisomie 21. Ah. Et c'est vraiment bien fait. Donc, on a approché Fabien Toulmé, qui est français d'origine, qui habite en France et qui nous a aidés à faire les illustrations. Donc, ça va être un outil qu'on va exporter et on est très fiers. On le fait aussi
en anglais. Je comprends, Geneviève. Écoutez, on a tous et toutes très hâte, évidemment, de voir ça. Il y aura aussi une conférence le 18 mars.
Oui, en fait, cette conférence-là s'adresse à nos membres, aux familles qui ont une trisomie 21. C'est une conférence sur l'inclusion scolaire et sur le plan d'intervention à l'école. Comme je disais tout à l'heure en préambule, souvent, les parents vont inclure leurs enfants, mais il faut quand même outiller les parents parce que c'est pas un chemin facile. Il reste encore beaucoup d'informations. Un plan d'intervention scolaire, c'est complexe. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour. Il y a les enseignants, direction d'école, le service de garde, la psychoéducatrice. Donc, un parent doit avoir certains outils pour bien s'organiser dans ce système-là. Donc, on fait une conférence qui dure 5 heures à nos bureaux et on passe à travers tout ça. Donc, les parents, à la sortie, savent déjà comment s'organiser pour faire toute l'inclusion scolaire avec leur enfant.
Et là, je vous écoutais, mais je vous avouerais qu'il y a une petite partie de moi, vraiment, pendant que je vous écoutais, qui s'était pivardée en me disant « Ce serait fantastique que dans les écoles, par exemple, une fois par mois, on fasse circuler un circulaire... Pardon, c'est vraiment mal dit ce que je viens de dire, mais on fasse circuler un circulaire. Ah là 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 !» Mais bon, alors, un mois, ça pourrait être justement sur la trisomie 21, mais un autre mois, ça pourrait être sur la sclérose en plaques, un autre mois...
Exactement.
Vous imaginez comment les enfants, déjà au bout d'une année, seraient au courant que la différence, ça existe, quoi?
Il y a quelques années, j'avais été dans une école de Laval où ils faisaient une journée par année sur la différence et qui invitaient des organismes et qui essayaient de montrer aux enfants c'est quoi la différence. Donc, je me souviens, j'avais avec moi quelqu'un qui venait de la rue, un itinérant, une personne de grande taille, et les enfants de la maternelle regardaient la personne de grande taille puis ils disaient, mais est-ce que tu peux dormir? Donc, c'était des questions très simples, mais qui ouvraient tellement sur le monde et qui a fait tomber tellement de préjugés. Et il ne faut pas l'oublier, ces personnes-là là, qui sont à l'école présentement, c'est nos citoyens de demain,
oui.
Qui vont mettre des lois, des règles, qui vont pouvoir changer le monde. Donc, il faut les éduquer et leur ouvrir l'esprit le plus possible.
Eh bien, écoutez, heureusement qu'il y a des gens justement comme vous, Geneviève Labrecque, hein, qui prenez en charge cela et on vous en remercie. J'ai bien hâte d'entendre parler s'il va y avoir une autre organisation comme ça dans une école, parce que croyez bien que sur Canal M, on va en parler. Je vous souhaite une belle journée et puis bonne chance pour tout cela.
Merci, bonne fin de journée, au revoir.
Au revoir. À l'international maintenant, elle a joué de la musique à l'Opéra de Sydney uniquement avec ses yeux. Elle s'appelle Jessie Irwin, I-R-W-I-N, elle est australienne. À la suite d'une naissance compliquée, comme elle le dit elle-même, elle est diagnostiquée porteuse d'une paralysie cérébrale. Mes fonctions motrices fines sont touchées, précise-t-elle, et mon corps endure chaque jour des spasmes musculaires involontaires. Elle ne peut pas donc évidemment tenir un instrument de musique entre ses mains. Et là, elle raconte. Quand j'avais 4 ans, dans une vidéo publiée sur YouTube, j'ai suivi un programme d'éducation conductive. Il s'agit d'une méthode d'éducation spécialisée pour les infirmes moteurs cérébraux, dans laquelle il y avait de la thérapie par la musique. Je me suis alors passionnée pour cet art, dit-elle. J'ai toujours vécu dans un univers musical, et c'est ce qu'elle explique dans son blog. J'ai remarqué que m'immerger dans les battements et les rythmes amoindrissait ma douleur physique et diminuait mes spasmes. Une des raisons pour lesquelles je me suis investie dans la photographie de concert venait de cette nécessité que je ressentais de me joindre à mes amis musiciens sur scène. Puis, Jess Irwin a croisé le chemin du docteur Jordan Nguyen, un neurologue travaillant essentiellement avec des personnes tétraplégiques. Il a mis au point une machine produisant de la musique et grâce au contrôle oculaire, le psychénétique, pressentant l'immense attrait de Jess Irwin pour la scène, il lui a proposé un projet fou, jouer à l'Opéra de Sydney avec un quartet composé d'un piano, d'un violoncelle, d'un alto et d'un violon. Alors elle a évidemment accepté, même si elle ne disposait que de 5 semaines de répétition. Elle dit « Je ne connaissais rien à la musique classique ». Mais c'était trop tard. Le docteur Nguyen raconte que les billets se sont vendus comme des petits pains et que la salle était complète avant même le jour J. Jouer à l'Opéra de Sydney avec un quartet de piano était très surréaliste, écrit Jess Irwin. C'était très étrange parce que dans cet immeuble iconique, j'ai vu quelques-uns de mes musiciens préférés. Soudain, j'étais sur cette même scène. Si une standing ovation est à vivre, je pense que nous l'avons mérité, avait-elle dit avant le spectacle. Et je vous rassure, la performance de Jess Irwin et de ce quatuor a été effectivement saluée par une standing ovation. Voilà ce qui complète les par actualités du 7 mars 2007. C'était Clotilde Seille qui vous remercie d'avoir été là, qui vous souhaite une excellente fin de journée et qui remercie son équipe. À demain, 11h30.